Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Dieu dit en effet, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Nous venons de lire ce passage de saint Paul, tiré de la deuxième épître aux Corinthiens, dans l'épître de cette messe. Le carême est en effet un temps favorable. Ce sont des jours de salut, des jours de grâce. Mais favorable pourquoi ? Pour se convertir, c'est ça le but. Nous avons lu dans l'épître du mercredi des cendres cette prophétie de Joël. Convertissez-vous à moi de tout votre cœur, par des jeûnes, des larmes et des pleurs, et déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le carême, en effet, est un temps de conversion. Conversion, ça veut dire retournement. Se convertir, c'est se tourner vers Dieu parce qu'on s'en était détourné. Or, on peut se détourner de Dieu de deux manières. D'abord, si l'on pêche gravement, alors on se détourne de Dieu totalement. Par le péché mortel. Dieu ne vit plus dans l'âme qui s'est ainsi détournée de lui. Elle est devenue ennemie de Dieu. Et puis on peut se détourner de Dieu sans l'exclure, par la tiédeur, le relâchement, la multiplication des fautes véniales délibérées contre lesquelles on ne lutte plus. Il s'ensuit donc qu'il y a deux sortes de conversion. On se convertit d'abord en revenant vers Dieu dont on s'était coupé, c'est-à-dire en passant de l'état de péché, péché mortel, à l'état de grâce, en retrouvant l'amitié de Dieu qu'on avait perdue par le péché grave. Alors on la retrouve par une bonne confession, puis par les efforts qui suivent cette confession ou qui la précèdent. Mais on peut aussi se convertir en passant d'une vie chrétienne imparfaite, médiocre, relâchée, ou tout simplement une vie sainte, mais sans plus, à une vie plus sainte, plus fervente, plus fidèle. Voyez donc qu'on est tous concernés. Tous nous devons nous convertir et nous convertir sans cesse. Et c'est pour ça que le carême est bienvenu et qu'il est important. Dans tous ces cas, le carême est une occasion privilégiée, un moyen efficace pour opérer le mouvement de retour à Dieu et pour se rapprocher de lui. Et plus qu'en aucun autre temps, l'Église nous propose pendant ce carême des instruments de conversion, comme dit saint Benoît dans sa règle, des instruments de conversion. Avec une insistance toute maternelle, elle nous convoque plus souvent à la prière. Elle multiplie les exhortations, lisez par exemple toutes les oraisons du missel, les avertissements, les enseignements dans les épîtres, dans les évangiles, les conseils. Elle nous encourage à rentrer en nous-mêmes, à examiner notre conscience, à confesser nos péchés, à faire généreusement pénitence, à prendre des résolutions efficaces. Le carême, autrement dit, c'est comme une grande retraite. Chaque année, l'Église nous propose cette retraite et on ne redira jamais assez la richesse de cette période, de ce temps liturgique. La liturgie du carême est plus riche que dans n'importe quelle autre période de l'année chrétienne. Chaque jour, l'Église nous propose une messe propre, avec des textes soigneusement sélectionnés, des textes dont beaucoup ne sont donnés qu'en aucun autre moment de l'année. Il n'y a que à cette époque du carême qu'on peut lire ces textes. Alors, elle nous montre par exemple les grandes figures de l'Ancien Testament, Isaac en ce premier dimanche de carême, Jacob dimanche prochain, Joseph au troisième dimanche de carême, Moïse au quatrième. Mais surtout, elle nous montre Jésus marchant jour après jour vers son calvaire, entrant en lutte contre le mal, contre les puissances du mal, se retirant du monde pour jeûner, prier pendant 40 jours, c'est l'évangile d'aujourd'hui, nous enseignant par son exemple comment il faut mourir à nous-mêmes, dompter notre chair, vaincre le monde, et finalement, nous voyons Jésus s'offrant sacrifice de propitiation pour le salut de nos âmes. Ça sera à la fin du carême, la semaine sainte, où nous pourrons suivre presque heure par heure les souffrances de Jésus qui s'offre pour la rédemption de nos péchés. Alors, si nous nous attachons à scruter jour après jour les trésors de cette liturgie, comment rester indifférent ? Comment ne pas en sortir transformé ? Mais pratiquement, comment se convertir ? Le prophète Joël, on l'a lu tout à l'heure, et on l'a lu le mercredi des cendres, nous dit « par des jeûnes, des pleurs, des larmes, en déchirant nos cœurs et non pas nos vêtements ». Les anciens en Orient, effectivement, en signe de deuil, déchiraient leurs vêtements quand ils étaient frappés de quelque grand malheur. C'était un signe extérieur de repentir. Mais il ne faut pas se contenter de signes extérieurs, de douleurs, de regrets à cause de nos péchés. Dieu nous demande un repentir intérieur, la componction du cœur, la douleur de l'âme, ou comme on dit dans le psaume Miserere, le psaume 50e, un cœur contrit et humilié. Contrit, c'est-à-dire contritum dans le latin, ça veut dire broyé. Il faut que notre cœur soit comme broyé de douleur à cause de nos péchés. Alors, il ne s'agit pas de jouer les doloristes. Cette douleur est intérieure. Il faut qu'elle soit sincère, réelle, profonde, parce que nous comprenons la gravité du péché. Nous avons péché contre Dieu, nous l'avons offensé. Tibi soli peccavi et malum coram te feci. Contre vous seul, Seigneur, j'ai péché, et ce qui était mal à vos yeux, je l'ai fait. Et ce sentiment de contrition ne doit pas rester au stade du simple sentiment. Il doit se traduire dans des actes. Nous devons expier, réparer nos péchés. Comment allons-nous faire ? Eh bien, par la pénitence. Le carême, c'est un temps de pénitence. Par le sacrement de pénitence, mais aussi par la vertu de pénitence. Car la pénitence, c'est la vertu propre de ceux qui ont péché et qui, de ce fait, ont mérité une peine. Peine, pénitence, c'est le même mot. Le carême, précisément, c'est le temps de la pénitence par excellence. Alors, comment exercer cette pénitence ? Eh bien, en nous mortifiant, la mortification, pour réparer nos péchés passés et pour prévenir de nouvelles chutes possibles. La mortification, c'est quelque chose que nous n'aimons guère. Le mot effraie, il effraie notre sensibilité naturelle. Mortifier étymologiquement, ça veut dire mettre à mort, faire mourir. La mortification consiste à faire mourir en nous tout ce qu'il y a de mauvais. Il faut déjà en avoir conscience. Le péché, les mauvaises habitudes, les racines du péché, c'est-à-dire toutes ces mauvaises tendances qui nous tirent vers le mal. Et par expérience, nous savons bien que tout ça existe. Ces tendances que saint Augustin, au moment de se convertir, appelait ses vieilles amies, tant elles nous collent à la peau. Ces vieilles amies qui le tiraient par le vêtement de sa chair. C'est une expérience que nous faisons tous. Qui n'a pas éprouvé ces suggestions redoutables du vieil homme ? Alors, pour éradiquer ces vieilles amies, eh bien, il faut se mortifier, c'est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre. Et si l'on y réfléchit, on se rend compte en fait qu'il y a quatre bonnes raisons de se mortifier. Il y en a deux qui sont plutôt négatives et deux qui sont plutôt positives. Les raisons négatives, la première, c'est le péché originel. Tous, nous avons reçu en naissant ce péché originel. Le baptême nous a délivrés de la faute. Mais la blessure demeure, tous ces désordres que Dieu nous laisse pour nous donner l'occasion de mériter l'ignorance, la malice, la faiblesse, la concupiscence. Tous nous éprouvons ces faiblesses. Notre âme est blessée. Nous ne sommes pas bons par nature. Nous naissons avec de mauvaises tendances qu'il faut réprimer. On le sait que trop. Et puis la deuxième raison qui s'ajoute à ce péché originel, ce sont tous nos péchés personnels qui ont aggravé notre état et qui nous ont laissé des traces de mauvaises habitudes. Même pardonnés, nos péchés ont laissé des traces mortifères dans notre âme. Il faut donc nous purifier de tous ces miasmes, de toutes ces scories. Ça, c'est les deux premières raisons. négative, mais il ne faut pas s'en tenir là. Il y a deux autres raisons tout à fait positives pour lesquelles il faut se mortifier, des raisons qui doivent même nous enthousiasmer. La troisième raison, donc la première raison positive, c'est l'élévation que Dieu a donnée à notre âme. Dieu veut pour nous l'ordre surnaturel. Il faut donc nous mortifier à cause de notre élévation à l'ordre surnaturel. Dieu nous destine à la vie éternelle, c'est-à-dire à une participation de sa propre vie divine. Il nous veut saints, purifiés, consortes divinae naturae, participant à sa nature divine. Et cela suppose que nous retranchions de nos vies tout ce qui en elle est trop humain, tout ce qui entrave l'action de la grâce. Nous sommes faits pour le ciel, mais il y a d'innombrables attaches qui nous empêchent de nous envoler. Alors il faut couper ces attaches, il faut nous débarrasser de ce qui nous alourdit, de ce qui empêche l'élévation de notre âme. Et c'est précisément cela qu'opère la mortification. Alors bien sûr, c'est Dieu qui élève nos âmes, ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons nous élever nous-mêmes. Mais il faut coopérer, il faut nous disposer. Et c'est ce qu'opère la mortification. Et puis enfin, la quatrième raison, la plus belle, il faut se mortifier à cause de l'exemple de notre Seigneur qui a souffert et qui est mort par amour pour nous, pour racheter nos propres péchés, pour racheter nos âmes. Le chrétien doit se conformer à Jésus-Christ parce qu'il est un autre Christ. Alors sans doute, notre Seigneur n'avait pas besoin de faire pénitence, de se mortifier, parce qu'il était sans péché, lui. Mais il s'est pourtant mortifié, il s'est sacrifié pour nous, pour nous sauver, pour nous donner l'exemple. Et donc, en nous mortifiant à notre tour, nous nous identifions à lui, nous nous incorporons à lui, nous le consolons et nous appliquons les fruits de son sacrifice rédempteur. La mortification nous applique tous les fruits que Jésus nous a mérités sur la croix. « Confixus sum cum Christo », dit saint Paul. « Je suis crucifié, co-crucifié avec le Christ. » C'est ça qu'il faut faire pendant le carême. Mais l'Église est une mère. Et comme une mère, elle ne se contente pas de prescrire des généralités. Elle descend jusque dans les détails. Elle nous propose des remèdes tout à fait concrets, précis. Et ces remèdes y tiennent en trois mots. Si vous lisez régulièrement la liturgie du carême, vous verrez que ces trois mots reviennent sans cesse. La prière, le jeûne et l'aumône. La prière d'abord, l'esprit de prière, la méditation plus assidue de la parole de Dieu, la participation plus fréquente à la Sainte Messe, en semaine même, pendant le carême, pour bien goûter, justement profiter de toute cette liturgie magnifique. C'est la première démarche que l'Église attend de nous pendant le carême. Prions mieux, prions plus. C'est la prière qui donnera son prix à tous nos sacrifices de carême. C'est elle qui doit être en quelque sorte l'âme de notre carême. Sans la prière, tous les exercices de pénitence n'auraient pas de sens. Ils risqueraient même d'engendrer l'orgueil. Alors prenons déjà des résolutions à ce propos, des résolutions de prière. Disons bien notre chapelet, faisons le chemin de croix. Le vendredi, par exemple, essayons de lire un petit peu plus la Sainte Écriture, de méditer chaque jour si nous le pouvons. Après la prière, l'Église nous recommande le jeûne. C'est une pratique qui est très traditionnelle dans l'Église. Elle remonte au tout premier temps de la chrétienté. Et vous savez qu'elle était obligatoire pour tous les baptisés adultes jusqu'à notre époque de dégénérescence spirituelle, après Vatican II même. Jusque sous Paul VI. Alors il faut être généreux là aussi, même si nous ne reprenons pas toute la discipline traditionnelle, d'essayer au moins de jeûner peut-être le vendredi, les vendredis de carême, le mercredi, de faire chacun ce qu'on peut, mais d'essayer de faire quelque chose pour l'amour de Jésus. La prière s'adresse à l'âme, le jeûne, lui, concerne le corps. Mais ce ne sont pas des pratiques opposées, bien au contraire. Le jeûne doit être l'expression des sentiments de pénitence dont l'âme est pénétrée. Et l'âme peut s'occuper d'autant plus librement aux choses de Dieu qu'elle retranche davantage au plaisir des sens. Le jeûne, donc, avant d'être utile au corps, il est utile à l'âme. Il dégage l'âme de la matière. Il lui donne une facilité merveilleuse pour s'élever à Dieu. L'homme qui mange avec excès s'animalise, il devient comme une bête. Mais l'homme qui jeûne se spiritualise. Saint Basile avait un mot qui résume tout, qui est très profond et qui est paradoxal, mais qui en dit long. Le jeûne, disait-il, c'est l'aliment des grandes âmes. L'aliment des grandes âmes. Alors soyons généreux, jeûnons. Et c'est dans cet esprit du jeûne que jadis la société chrétienne suspendait pendant le carême les assises des tribunaux et les guerres. Il n'y avait pas de procès pendant le carême. On ne faisait pas la guerre. C'était aussi un temps clos pour les noces. On ne se mariait pas pendant le carême. Et dans le même esprit de foi, l'Église exhortait les époux à observer la continence pendant toute cette période du jeûne solennel. Vous voyez, c'était beau toutes ces choses. Les âmes se sanctifiaient vraiment. Eh bien, il faut retrouver cet esprit autant que nous le pouvons. Par exemple, en faisant pendant ce carême un sérieux jeûne d'écran. Les écrans, c'est bien le grand mal actuel de notre époque. Savoir se priver d'écran, du fameux smartphone. Et puis toutes les petites privations que le Saint-Esprit pourra nous inspirer, telle curiosité, telle petite douceur qu'on se permet, l'apéritif pour messieurs, pour ces messieurs, le fait de faire du shopping pour madame, etc. À chacun de trouver toutes ces petits exemples, ces petites choses qui feront plaisir au bon Dieu et qui nous permettront de faire un bon carême. Et puis enfin, l'Église nous recommande spécialement la pratique de l'aumône pendant le carême. L'aumône, c'est donner de son superflu et même éventuellement de son nécessaire pour soulager la misère du prochain. L'aumône couvre une multitude de péchés, dit Saint Jacques. Pourquoi ? Eh bien parce que la cupidité est la source de tous les maux. Saint Augustin l'a très bien expliqué. Minuatur cupiditas, augiatur caritas. Quand la cupidité diminue, la charité grandit. Alors pour diminuer la cupidité, il faut donner de son bien, de tout ce qu'on possède. Et comprenez qu'à côté de l'aumône matérielle, il y a aussi une aumône spirituelle. Car on pourrait dire, moi je n'ai pas de bien, je ne possède rien, je ne peux rien donner. On peut toujours donner quelque chose. On peut donner de son temps, on peut donner de sa santé, on peut donner de son activité, on peut visiter des malades, on peut se dévouer auprès de ceux qui sont dans le besoin, on peut donner, faire plaisir, donner un petit peu de son temps pour faire plaisir, émailler nos journées de ces 1000 petites trouvailles du cœur grâce auxquelles la charité fraternelle règne effectivement. À juste titre, nous nous plaignons que les temps sont mauvais. Nous gémissons de voir l'Église vilipendée, les âmes se perdre, le monde courir à sa ruine. Gémir, ça ne changera rien du tout. Ce n'est pas ça qui changera les choses. Il n'y a qu'une seule voie à suivre. C'est celle dont les saints nous ont donné l'exemple. Reconnaître que nous avons péché, que nous avons notre part dans ces maux du monde et donc nous convertir. Alors Dieu nous fera miséricorde. Soyons donc généreux, faisons un saint carême, un vrai carême, et que Notre-Dame, qui sait que tout ce que nos péchés ont coûté à son divin Fils, qu'elle nous inspire des résolutions de carême vraiment appropriées et efficaces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.